Vincent d'Europe, Léonard Vincent.
Accent d'Europe vous emmène en Irlande aujourd'hui, l'Irlande qui a été longtemps le havre européen des géants du numérique en raison de ses avantages fiscaux. Mais le pays fait face aujourd'hui aux problèmes que pose l'intelligence artificielle, l'IA, dans une société ultra connectée. On s'inquiète particulièrement pour les petits Irlandais qui, comme tous les enfants européens, sont très consommateurs d'écrans et d'applications en tout genre. C'est le sujet sur lequel s'est penchée pour nous notre correspondante à Dublin, Clémence Pénard.
Les enfants seraient traités comme des cobayes dans le monde numérique. C'est en tout cas ce que pense Alex Cooney, directrice de CyberSafe Kids Ireland, une organisation caritative créée en 2015. Pour Alex, les enfants ne devraient pas être exclus de l'actuelle conversation sur l'IA.
La seule façon de vraiment garantir la sécurité des enfants sur ces espaces en ligne, c'est de les concevoir en pensant aux enfants. Nous avons aujourd'hui des services essentiellement conçus par des adultes, pour des adultes, et pour offrir de meilleures protections, ils ont ajouté des fonctionnalités, des contrôles parentaux. Mais c'est comme mettre un pansement sur une coupure qui est sur votre jambe. Ça ne dit pas pourquoi vous vous êtes coupé la jambe en premier lieu.
Et les coupures dont parle Alex Cooney, les blessures que pourrait causer l'IA sur un enfant sont malheureusement nombreuses.
En termes d'IA générative, dont on parle beaucoup en ce moment, l'IA balaye toutes les informations trouvées sur Internet et les renvoie. Mais ce n'est pas forcément exact. Alors qu'est-ce que nos enfants apprennent de ces sources en ligne? Vous savez, avant de parler d'IA générative, l'IA avait déjà un impact important avec le système de recommandation de contenu piloté par des algorithmes. Ainsi, les enfants se voient parfois proposer du contenu vraiment inapproprié, du contenu lié à l'automutilation, au suicide, aux troubles alimentaires ou encore des contenus sexuels.
Car l'une des préoccupations majeures, c'est en effet les deepfakes pornographiques créés à partir de l'intelligence artificielle. Une technique d'hypertrucage qui peut superposer des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres fichiers. L'outil peut être utilisé pour créer des infox et des canulars malveillants, mais pas que.
Nous savons qu'il existe une technologie utilisant l'IA pour retirer des vêtements, par exemple, d'une photographie. Ils peuvent simplement utiliser les photos que vous avez postées sur les réseaux sociaux. Et ça amène un autre problème, celui de contenu illustrant des abus sexuels d'enfants. Tout ça généré artificiellement. C'est très préoccupant et ça se propage déjà en ligne.
Hello, yes, it's David here.
Pour David Coleman, psychologue pour enfants et adolescents, ces deepfakes, qui plus est très faciles d'accès, sont alarmants.
C'est aux parents de parler à leurs enfants en ce qui concerne les informations qu'ils publient sur Internet, les photos qu'ils partagent, car c'est une autre manière pour leurs enfants d'être exploités en ligne. En tant que parent, vous devez faire votre propre éducation, lire autant que vous le pouvez sur l'intelligence artificielle. Bon, après, l'IA n'est pas si mauvaise. Vous savez, ces haut-parleurs intelligents, par exemple, peuvent être utilisés par les enfants qui posent des questions sur leurs devoirs et toutes sortes de choses. Donc l'IA peut être très utile et fonctionnelle.
Du fait d'une imposition fiscale très avantageuse, la plupart des GAFAM se sont installés à Dublin. Selon Alex Cooney, à nouveau, l'Irlande a donc un rôle à jouer.
Parce qu'un grand nombre de ces entreprises ont leur siège social ici, nous avons, je crois, un niveau de responsabilité supplémentaire. Mais c'est un défi. Nous sommes un petit pays et il y a le revers de la médaille. Ces entreprises qui viennent en Irlande créent des emplois, elles apportent essentiellement de l'argent dans le pays. Donc je pense que pour de nombreux décideurs politiques, c'est délicat. C'est une position d'équilibriste.
Les enfants grandissent à l'ère du numérique et devraient donc pouvoir bénéficier des nouvelles technologies. Mais pour ce faire, ils devraient être correctement équipés. Or, la place de l'Irlande comme hébergeur en Europe de toutes ces grandes entreprises de la tech pourrait l'empêcher de légiférer sur la question, de peur de compromettre la prospérité économique du pays.
On le comprend avec ce reportage, le développement de l'IA exerce des pressions importantes sur les gouvernements. L'Union européenne, d'ailleurs, est bien consciente de ces nombreux problèmes. Elle est donc sur le point d'adopter formellement un règlement sur l'intelligence artificielle. Bonjour Juliette Garbrand.
Bonjour Léonard, bonjour à tous.
Le texte final a été plébiscité par le Parlement européen. Il y a un mois, ne reste plus que l'imprimatur du Conseil dans les semaines qui viennent. Mais rappelez-nous quand même ce qui est prévu.
Eh bien, ça ne fait pas mal de le redire pour commencer. Léonard, c'est la première loi au monde qui encadre l'intelligence artificielle. Alors, elle prend en compte le degré de risque lié à un usage particulier de l'intelligence artificielle. Pour un premier niveau de risque faible, il y a juste une obligation de transparence. Par exemple, si vous dialoguez avec un chatbot, vous devez être prévenu. Pour les usages classés à haut risque, en revanche, la loi oblige à toujours prévoir un contrôle humain des opérations et une évaluation de l'incidence sur les droits fondamentaux.
Alors, quelques exemples, par exemple?
Ça peut concerner l'attribution d'un crédit bancaire, le contrôle aux frontières, plus généralement tout ce qui concerne la santé, l'éducation, la police, la gestion des ressources humaines et les services publics de manière générale. Et enfin, il y a bien sûr le niveau de risque inacceptable, celui qui interdit tout usage de l'intelligence artificielle. Par exemple, la reconnaissance à distance des émotions d'un individu qui pourrait être utilisé en milieu professionnel ou éducatif, car en effet ça existe déjà. Les pratiques de notation automatique des individus. En Chine, on note les bons citoyens. Eh bien, on pourrait aussi noter, pourquoi pas, les bons clients ou les bons employés. Enfin, dernier point qui a beaucoup fait débat au Parlement, l'équilibre entre respect de la vie privée et sécurité. L'identification biométrique d'un individu dans une foule, c'est interdit. Ou presque, il y aura des exceptions. Cette identification à distance sera possible pour rechercher par exemple un enfant disparu, identifier des suspects dans une affaire de terrorisme, de pédopornographie ou de trafic d'êtres humains. Ce dernier point étant un peu vague, mais il faudra un contrôle judiciaire pour y recourir.
Alors l'entrée en vigueur de cette loi n'est pas pour tout de suite, Juliette. Or la surveillance des foules par l'IA est déjà une réalité. On le voit en ce moment à l'approche des JO à Paris.
Oui, le gouvernement parle de vidéosurveillance intelligente. Elle sera déployée dans les zones de forte densité, mais elle ne doit pas utiliser la reconnaissance faciale, ni conserver les données. Elle servira à identifier par exemple un mouvement de foule, l'entrée dans une zone interdite, un colis abandonné, un début d'incendie, une arme, mais aussi une densité trop importante sur un même lieu. Les expérimentations sont en cours et elles se poursuivront au-delà des Jeux jusqu'à l'an prochain. Et pour ce qui est de la loi européenne, elle ne sera en effet appliquée en totalité que 2 ans après son entrée en vigueur. Mais l'interdiction des pratiques à risque inacceptable, elle le sera avant, au bout de 6 mois.
Alors cette loi, Juliette, elle vise aussi à aider l'Europe à rester dans la course industrielle de l'IA.
Oui, c'est important. L'Europe va devenir le meilleur endroit au monde pour faire de l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ce qu'a prédit le commissaire européen Thierry Breton en décembre dernier. Il faut rester dans la course, d'autant plus que d'autres ne s'embarrassent pas de poser des garde-fous. Une catégorie spéciale a été créée dans la loi pour traiter de la matière première, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GPIA, les intelligences artificielles à usage général, qui présentent ce que la Commission européenne appelle un risque systémique. Ce sont tous ces systèmes, qui dépasse un certain seuil de puissance de calcul ou bien qui s'adresse à des opérateurs professionnels en très grand nombre. C'est à partir de ces GPIA, ou modèles de fondation, qu'on développe un service. Par exemple, ChatGPT, c'est un service d'IA génératif que vous connaissez qui s'appuie sur le langage GPT-4 qui est une GPIA. Les Français et les Allemands ont déjà chacun leur champion et la législation européenne protège ces GPIA pour favoriser l'innovation et la compétitivité du continent, de l'Union. Elles ont moins d'obligations par exemple que les IA classées dans la catégorie à haut risque, sans pour autant bien sûr être lâchées dans la nature. Évidemment, l'intelligence artificielle c'est un enjeu crucial pour l'avenir économique de l'Union européenne. Et le débat, Léonard, sur l'équilibre entre société de contrôle et progrès pour l'être humain est loin d'être épuisé.
Merci Juliette Garbrandt dans Accent d'Europe. En Turquie, c'est un autre genre de polémique qu'a récemment provoqué l'intelligence artificielle. Une polémique politique ou politicienne, comme on voudra, après que le chef du principal parti de l'opposition turque, le CHP, a expliqué que son équipe de campagne avait utilisé, entre autres choses, des outils basés sur l'IA pour désigner ses candidats aux élections municipales du 31 mars. Il a eu beau se reprendre et se corriger plus tard, c'était trop tard. Son rival, le président Erdogan, s'est tout de suite moqué de sa déclaration. À Istanbul, les explications d'Anna Dlauer.
Ce fut l'une des polémiques les plus commentées et sans doute l'une des plus étranges de la campagne pour les récentes élections municipales en Turquie. Elle a commencé quand Özgür Özel, le chef du principal parti d'opposition CHP, a mentionné dans une interview que son parti avait utilisé, entre autres, l'intelligence artificielle pour désigner ses candidats. Selon ses explications, un logiciel d'intelligence artificielle était chargé d'écouter les sondages effectués par téléphone avec les électeurs, dans lesquels ces derniers étaient interrogés sur leur candidat préféré pour la mairie de leur ville. En fonction des réponses, il est arrivé que le logiciel suggère d'ajouter un nom qui ne figurait pas sur la liste des candidats proposés. Et lorsque le nom en question était inclus dans le sondage, il est arrivé qu'il soit en effet plébiscité par les électeurs dans les sondages suivants. Les cadres du parti au pouvoir, l'AKP, se sont aussitôt servis de ces déclarations pour dénigrer le CHP et faire valoir qu'eux-mêmes, au contraire, n'avaient utilisé que l'intelligence humaine, je cite, pour choisir leur candidat. Le président Erdogan a raillé un parti qui, selon lui, préférerait écouter des programmes informatiques plutôt que les demandes des électeurs. Au sein du CHP, des maires sortants fâchés de ne pas avoir été réinvestis ont mis ce désaveu sur le compte de l'intelligence artificielle. Pour calmer la polémique, Özgür Özel a précisé que le cas où l'intelligence artificielle avait soufflé le nom d'un possible candidat ne s'était présenté que 4 ou 5 fois et que parmi ces quelques exemples, seuls un ou deux candidats avait effectivement été désigné de la sorte. Il a par ailleurs expliqué que le CHP avait aussi fait usage de l'intelligence artificielle pour trouver des slogans répondant aux problèmes soulevés par les électeurs dans les sondages, et même pour décider de la couleur de certaines affiches. Quoi qu'il en soit, la campagne du CHP a, à l'évidence, été un succès, puisqu'une large majorité des électeurs de l'opposition, tous partis confondus, ont voté pour ces candidats, ce qui explique en partie la lourde défaite du pouvoir.
Notre correspondante Anne Andlauer à Istanbul notait tout de même que les municipales du 31 mars se sont soldées par un désaveu historique du président Erdogan et de son parti et par une victoire retentissante de l'opposition, le CHP social-démocrate. Le Royaume-Uni avait fait preuve, il n'y a pas si longtemps, au début des années 2020, d'ambitions écologiques importantes. Ces ambitions avaient été saluées et brandies en exemple en Europe. Or, elles sont aujourd'hui remises en cause par le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak. J'en ai parlé avec notre correspondante à Londres, Marie Billon, et je lui ai d'abord demandé si Londres, qui s'était engagé à zéro émission de carbone en 2050, était, oui ou non, revenu sur sa promesse.
Alors non, pas à en croire le Premier ministre. Déjà, parce qu'en 2019, le gouvernement de Theresa May avait fait inscrire cet engagement dans la loi. Mais à l'automne dernier, Rishi Sunak a dit que rien ne sert de se presser ou d'en faire trop vite, puisque l'échéance est 2050 et que le pays a déjà fait beaucoup de progrès. Ça, c'est selon lui, parce que la commission parlementaire en charge du dérèglement climatique a prévenu que les progrès étaient lents au point d'en être inquiétant et que la fenêtre de temps pour rectifier le tir était très petite. Mais selon le chef de gouvernement, le risque est de perdre le consentement des gens si les familles doivent faire face à des coûts inacceptables pour remplir ses objectifs gouvernementaux. Il faut rappeler que les conservateurs sont au plus bas dans les sondages et que les élections générales doivent être organisées dans les 9 mois prochains.
Alors, quelles sont les mesures environnementales qui ont été revisitées ?
Alors, il y en a plusieurs. Boris Johnson avait promis que plus aucun véhicule neuf à essence ou diesel ne serait vendu au Royaume-Uni d'ici à 2030. Rishi Sunak a repoussé l'échéance à 2035, estimant que d'ici à 2030, la majorité des voitures neuves seront de toute façon électriques, mais que le choix doit rester celui des acheteurs et que le gouvernement ne devrait pas les y forcer. Ensuite, Boris Johnson, là encore, s'était engagé à ce que tous les biens immobiliers à la location auraient une étiquette de performance énergétique de C minimum d'ici 2028. Rishi Sunak a décidé qu'on ne pouvait pas forcer les propriétaires à engager ces dépenses avec une date limite. Ils doivent toujours faire ces travaux, mais quand ils le peuvent. Et puis, il y a des décisions dont on ne sait pas si elles tiennent toujours. Une taxe sur les sources d'énergie polluantes qui devait être à la charge des foyers. Et aussi, que toute nouvelle maison soit construite avec une pompe à chaleur ou bien une alternative plus vertueuse qu'une chaudière à gaz en tout cas. Ce devait être à échéance 2025. Downing Street ne mentionne plus ces deux objectifs.
Merci Marie Billon, correspondante Accent d'Europe à Londres. Les élections européennes sont-elles vraiment européennes? À moins de 2 mois du scrutin, certains regrettent que ce vote dépasse rarement des enjeux nationaux. Et la façon dont le scrutin est organisé n'aide pas toujours. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
En France, nous sommes en pleine campagne pour les élections européennes, sans forcément parler d'Europe. Pour l'opposition, c'est l'occasion de taper sur Emmanuel Macron. Pour les macronistes, c'est le moment de valoriser leur président. Est-ce que c'est partout comme ça? Il semblerait que oui. En Italie, en Hongrie ou en Irlande, comme l'a expliqué à France Inter Christophe Gillissen, professeur de civilisation britannique et irlandaise.
Les élections européennes en Irlande comme ailleurs en Europe sont des élections de second ordre. Ce ne sont pas des élections considérées comme essentielles, comme une élection générale.
Et ce n'est pas de fausses élections nationales comme ça l'est chez nous, par exemple.
Alors, il y a un peu le même phénomène, une abstention un peu plus élevée, un vote protestataire plus fort, un vote sanction contre le parti au pouvoir.
Tous les mêmes, ces Européens. À leur décharge, l'Europe ne les incite pas toujours à regarder en dehors de leurs frontières nationales, avec ce scrutin qui propose des listes par pays. Après tout, un eurodéputé italien ou polonais pourrait être meilleur au Parlement pour défendre les idées d'un électeur français en ce qui concerne l'Union européenne. Le parti Volt présente d'ailleurs une liste dans 16 pays avec exactement le même programme. La néerlandaise Sophie In 't Veld, une de ses têtes de liste, veut des partis transnationaux. Elle l'explique à Euronews.
Je pense que de nombreux citoyens sont très enthousiastes à cette idée, mais elle a été bloquée par des politiciens nationaux qui n'étaient pas très contents à l'idée que les citoyens puissent choisir eux-mêmes parmi les candidats européens. Mais je suis sûre que c'est l'avenir, cela viendra. Si ce n'est pas en 2024, ce sera en 2029.
Comment ça marche alors si vous voulez voter pour Volt? Il y a la liste affichée, pour rêver, avec des candidats de nombreux pays européens, et la liste réelle, des candidats bien de chez nous. Volt est soit avant-gardiste, soit dans la politique fiction. Quand on écoute sa vice-présidente, Francesca Romana d'Antuono, on ne sait pas toujours.
La liste que nous présentons ne pourra pas être candidate, mais il était très important pour nous de la présenter en tant que symbole de l'Europe que nous voulons. D'ailleurs, vous avez remarqué que nos listes ont aussi des candidats d'Albanie, qui n'est pas un État membre, mais qui est candidate à l'adhésion.
Pas sûr que ça marche électoralement comme concept. Mais ce qui est intéressant dans Volt, c'est qu'il met en évidence l'absurdité d'avoir des catégories nationales que l'on plaque sur des enjeux européens. D'ailleurs, les deux têtes de liste du parti appartiennent à deux formations politiques différentes. Sophie In 't Veld est chez Renew, les centristes, où siègent nos eurodéputés macronistes. Et l'autre tête de liste, l'allemand Damian Boeselager, est dans le groupe des Verts. Ils ont constaté que, sur l'Union européenne, ils ont les mêmes idées. À l'inverse, au sein d'un même groupe au Parlement européen, on ne partage pas toujours les mêmes convictions. Demandez donc à la tête de liste de la droite française, François-Xavier Bellamy, ce qu'il pense de la présidente de la Commission, issu de son parti, le Parti populaire européen.
Au congrès du PPE, nous avions annoncé depuis le début que nous voterions contre la reconduction d'Ursula von der Leyen. Elle n'était pas notre candidate en 2019, c'est Emmanuel Macron qui l'a installée dans cette fonction.
C'est surtout Angela Merkel qui est derrière, à l'époque reine mère de la CDU en Allemagne et chancelière.
Elle ne sera pas notre candidate avec les Républicains en 2024.
Bah oui, d'accord, mais elle est la candidate du PPE pourtant. Et au PPE, il n'y a pas que les Républicains qui comptent. Ce discours montre que les pays n'ont pas été effacés par Bruxelles, contrairement à ce qu'affirment ceux qui réclament l'Europe des nations. Certains pensent qu'il faudrait même réduire encore leur importance, comme le Belge Guy Verhofstadt. L'ancien Premier ministre l'a expliqué dans l'émission « The Rest is Politics ».
Le problème, ce n'est pas la structure fédérale en Europe, c'est au contraire le patchwork intergouvernemental qui doit marcher à l'unanimité. Les 27 États membres doivent être d'accord. Demain, ils seront 35, 36 ou 37, car il y aura la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, et nous donnerons encore un veto à tous ces membres.
Ça paraît effectivement inefficace, voire dangereux. On imagine qu'avec l'élargissement, il y aura une réforme des institutions. Cela sera peut-être l'occasion de repenser, pour le Parlement, un mode de scrutin finalement assez peu européen.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Victor Hull. Restez avec nous, bien sûr, l'information continue sur RFI.